que Sir Edmund Halley avait prévu le retour de la comète en 1758. Le pauvre, à cette époque-là, il était déjà mort. Et en 1758 arrive, les mois passent et la comète n'est pas là. D'éminents savants soutiennent qu'elle ne reviendra pas et continuent à mettre en doute les lois de la gravitation. Alors, des mathématiciens français se plongent dans un travail de moine pour recalculer ses positions. 6 mois d'équations, matin, midi et soir, et pendant les repas. L'un d'eux, Lalande, en restera malade toute sa vie. Enfin, c'est la révélation, la comète a été retardée par Saturne et Jupiter, conclut-il. Qu'on ne s'inquiète pas, elle va arriver. Le soir de Noël, en Saxe, un astronome amateur l'attrape dans son télescope. C'est le triomphe. Pour la première fois, la science a prédit le retour d'une comète. Newton avait raison, le monde est régi par une force universelle à laquelle obéissent aussi ces sacrés astres chevelus. Fini l'obscurantisme et les superstitions. On fête Halley, la comète portera son nom. En 1835, la voilà de nouveau, comme tous les 76 ans, saluée par des gros télescopes cette fois. Puis une fois encore, en 1910, pour de premières photos. Elle marche avec le siècle. La queue, confirme-t-on, est bien formée de sa matière, vaporisée par le soleil. Fini la peur ancestrale ? Eh bien non ! La Terre va peut-être traverser la comète, énonce imprudemment Camille Flammarion. La panique renaît. L'humanité privée d'oxygène va suffoquer, ou alors périr empoisonnée par des gaz mortels. Les plus naïfs s'enferment dans des caves, avalent des pilules pour combattre le mal, se répandent en prière pendant que d'autres se ruinent en banquet en l'honneur du dernier jour. Daumier dessine les Parisiens prenant leurs précautions pour ne pas être rôtis par la comète, dans la Seine jusqu'au cou. Aujourd'hui, la belle de Halley revient donc nous saluer, à l'époque des sondes spatiales et de la guerre des étoiles. Les comètes sont-elles enfin lavées de tous les péchés ? Sont-elles enfin tirées du lit de leur folklore ? Peut-être pas encore. Des scientifiques très modernes les rendent maintenant coupables de la mort des dinosaures. Certains affirment même qu'elles apportent des virus et des bactéries qui propagent des épidémies. Va-t-on bientôt les rendre responsables du sida ? Cette pauvre comète, elle est déjà même accommodée à la sauce politique. On a pu lire dans un article récent « Songeons que cette comète maudite et belle sera tout près en mars 86, au moment précis où en France l'opposition tentera de reprendre le pouvoir à la gauche. Encore un coup monté par la galaxie de droite. » Et certains tristes lurons sauteront sûrement sur l'occasion pour nous rebattre les oreilles de fin du monde et de repentir.
Oh, Superman. Oh, Java. Well, you don't know. know you. And I've got a message to give to you. Justice is gone.
Saviez-vous qu'il existe des chasseurs sympathiques qui ne tuent rien ? Eh oui, ce sont des chasseurs de comètes, qui ne sont pas des astronomes, mais de simples Pékins dont le hobby est d'avoir les yeux braqués sur le ciel toutes les nuits. Un exemple. Ancien pilote d'Air France, plus proche des héros de Saint-Exupéry que des astronautes de la guerre des étoiles, Emilio Ortiz appartient au club très fermé des hommes qui ont donné leur nom à l'une de ces nombreuses comètes. Il y en a actuellement 700 répertoriées. C'est du cockpit de son Boeing, entre Saint-Denis de la Réunion et Tananarive, que cet homme calme et posé a vu, en 1970, scintiller une curieuse nébulosité. Le nom de cet admirateur du ciel, passionné par l'histoire de l'univers, s'inscrit désormais en lettres d'or au panthéon des astronomes amateurs. La comète Ortis est repartie se perdre dans les abysses du système solaire, mais Emilio Ortis ne sera jamais oublié. L'avion est un observatoire privilégié, estime cet homme calme et souriant. J'ai passé beaucoup plus de temps à regarder le ciel que bon nombre d'astronomes professionnels. D'ailleurs, avant de trouver sa comète, Ortis en avait déjà rencontré deux autres. Mais le temps de prévenir les autorités compétentes et les deux voyageuses avaient déjà été reconnues par d'autres chasseurs. En 1985, deux Français, Alain Maury et Jacqueline Cifréau, en ont débusqué deux à quelques mois d'intervalle. Jacqueline Cifréau, dont la découverte date du 12 novembre, est l'un de ces amateurs passionnés et ultra compétents qui ont fait du ciel leur résidence secondaire. Cette femme, d'une cinquantaine d'années, scrute le ciel trois nuits par mois pour le compte d'un centre d'études et de recherche géodynamique et astronomique. Ces pêcheurs d'étoiles renouent avec une grande tradition française qui remonte au XVIIIe siècle. Citoyen de Louis XV en découvrit 13 et son successeur, qu'on appelait l'aimant des comètes, en avait trouvé 36. Le XXe siècle possède aussi ses héros, dont le jardin secret est peuplé d'objets célestes. Kaori Ikeya, par exemple, est entré vivant dans la légende. On a même tourné un film sur sa vie. Il a découvert sa première comète à 19 ans. Mais ce fut autant une revanche qu'un exploit. Le jeune japonais s'était juré d'inscrire le nom de sa famille en lettres de lumière dans le ciel pour racheter son honneur perdu dans la faillite paternelle. George Alcock, lui, n'a pas de semblable motivation. C'est l'amour des étoiles qui le pousse chaque soir de beau temps à s'installer sur une chaise longue au milieu d'un champ de choux dans la campagne anglaise. Il braque ses jumelles sur la terre et ses yeux, qui ont mémorisé plus de 30 000 étoiles, entreprennent un tour d'horizon. Le moindre intrus est immédiatement repéré. Alcock a déjà inscrit 5 comètes à son palmarès. Sa dernière trouvaille date d'avril 1983. Ce jour-là, deux autres guetteurs l'ont également aperçu, un japonais et un extraterrestre, le satellite IRAS. Ces dilettantes talentueux ne sont que les plus célèbres des fous du ciel, car ils sont légion, ces branchés des étoiles aujourd'hui à l'honneur. La grande kermesse de Halley leur a en effet ouvert ses portes. Reconnus d'utilité publique, ils viennent prêter main forte aux pros. En France, Jean-Louis Eudier anime cette collaboration sidérale. C'est pour lui l'occasion rêvée de mobiliser les chasseurs d'observation cométaire français. Ses plus jeunes recrues n'ont guère que 13 ou 14 ans, mais certains vétérans ont vu la comète en 1910. La comète de Halley, Ismoni. Dans le sillage de la comète, une pluie d'or de 500 millions de dollars. À défaut de la voir, cette comète, on peut déjà l'entendre. Sa musique céleste, le tiroir-caisse. Les marchands du temple évaluent à 500 millions de dollars la commercialisation de cette boule de neige sale. Sur son passage, hier encore, Shakespeare, Swift, Byron tricotaient des poèmes. Autre temps, autre mœurs, aujourd'hui, on imprime des t-shirts « Halley's Money ». Les prédateurs font rimer la science avec nos chéquiers. C'est en 1910, date à laquelle la fin du monde est habilement pronostiquée, que la fiesta commence en fait. Un Texan lance la Comet Pill, une pilule faite de graines de tournesol enrobées de yogourt. Son pouvoir, annihiler les vapeurs cyanogènes mortelles qui sont dégagées par la comète. Posologie, une pilule toutes les heures. C'est la folie, le Texan devient riche, même si à Saint-Domingue, c'est la pilule qui tue. Une rupture de stock provoque des rixes. À New York, les Ziegfeld Follies chantent « The Comet and the Earth », une ritournelle qui susurre « Puisque nous allons tous crever, profitons-en ». Mais dans l'ensemble, la publicité fait front. Les savons Pears, les stylos Waterman, le lait concentré, les machines à coudre et les lampes envisagent un avenir en délirant copieusement sur Halley. Fin 85, rebelote. Cette fois, il n'est plus question d'une fièvre artisanale et brouillonne. Pas davantage de mourir. Il est question de l'ordre de l'univers, dit gravement Brian Harper, 68 ans, fondateur en 1975 de la très British Halley Comet Society. Basée à Londres, tenant boutique sur 5 continents, elle regroupe 14 allumés de Halley. Comment faire partie du club ? Là-dessus, Harper ne plaisante pas. L'achat de la cravate frappée de notre logo est obligatoire pour les hommes. Les femmes, elles, se rabattent sur un médaillon dessiné par Mimi, l'épouse du fondateur. Dans ses magasins, il vend des alcools au goût de comète, des montres à l'heure de la comète, des mouchoirs, des calendriers, des 45 tours, etc. Le 29 octobre, c'est au profit de la fondation Duke of Edinburgh qu'on organise la Halley Comet Royal Gala à l'Albert Hall en présence de la princesse Anne. Le clou de cette bamboula, l'ex-copine du prince Andrew déguisée en boule de neige. Les 7 et 8 décembre, les 11 et 12 janvier, British Airways programme des vols baptisés Comet Specials. Moyennant 30 livres, on survolera la mer à haute altitude, au-dessus de toute pollution, pour mieux voir la comète. Précision de la compagnie, les hublots de l'appareil seront aussi propres que possible. Passons sur les croisières, les conférences, les pièces de théâtre, pour en arriver à la manifestation capitale. Le 1er janvier, le Halley's Comet Handicap ouvrira la saison hippique à Windsor. Remember when you were young? You shone like the sun. Right. commerce de la comète, les Américains, eux aussi, mettent la gomme. 80 sociétés travaillent à rentabiliser cette comète, dont celle de Robert Subrani, un juriste du New Jersey, qui s'est autobombardé président de HALCOM. Son idée fixe, vendre 7 millions de médailles en bronze, 15 dollars pièce, à ses compatriotes. Côté pile de la médaille, un monstre. Côté face, une devise, « Libera nos a malo comate », un latin de cuisine qui signifie « Libérez-nous des malheurs de la comète ». Larry Lawton, un contrôleur aérien d'Albuquerque, qui vient de créer avec sa mère la société Astrolin Product, lui répond par t-shirt, 6,95 $, interposé, qui dit « Je suis, comme la comète de Halley, une expérience unique dans la vie. » Un appel sexuel qui figure sur ses autocollants, ses casquettes de baseball, ses sacs de voyage. Voyage, précisément. 10 000 Américains vont partir en mer, direction hémisphère du Sud, pour mieux déguster des yeux la comète. Organisée par la Viking Cruise Line, la croisière la plus chic, Auckland-Sydney, sera commentée par Carl Sagan, la star S étoile. Coût du bol d'air, 10 220 $. Pour ceux qui restent à terre, un fabricant de télescopes lance un nouveau modèle, 500 $. Nous espérons, dit-il, multiplier nos ventes par 300. Petite précision, les savants affirment que le télescope ne s'impose pas vraiment pour observer la comète. Entre les Jeux Olympiques et la comète de Halley, il y a une différence de taille. Cette comète, on ne peut pas la boycotter. Ainsi parle Owen Ryan, 39 ans, publicitaire new-yorkais. L'homme dont les dents rayent le cosmos, précise ses concurrents. Aux commandes de la General Comet Industry Corporation, Ryan confesse sobrement « Je suis le représentant terrestre de la comète, rien que ça ». Il investit 1 million de dollars, il compte en gagner 10. Du blouson de voyou à la chemise de nuit rose, du bonbon saccharine au mini-télescope, du paquet de cornflakes au phoque en peluche, du cornet de frites à n'importe quoi, son slogan est omniprésent « Things are looking up », les affaires s'arrangent. La seule denrée qu'il se refuse d'exploiter, c'est le whisky. « Je tiens, dit-il, à préserver l'image de la comète. » Sur le bureau de ce businessman de la comète, des cassettes qu'il auditionne avant d'enregistrer le disque officiel. Textes sidéraux du genre « L'amour arrive aussi soudainement qu'une comète, chevauche la comète, ne la laisse pas, ne la rate pas, etc. » Il ira loin, ce businessman. Pour l'heure, il va jusqu'à vendre des certificats de propriété de la comète. 9,95 $ les 100 actions. Avec une garantie comme quoi elle reviendra dans 76 ans. Ryan ne s'arrête pas là. Il travaille pour faire du 11 avril, la comète sera au plus près de la Terre, un jour de fête internationale. Une fête de l'amour, dit-il. Ce jour de l'harmonie, je convie Ronald Reagan à un pique-nique mondial. Un mytho mystique, ce Ryan ? Surtout un commerçant. Il dit, pour conclure, « Si je démontre que nous avons été capables de vendre du vent, les annonceurs à l'avenir seront convaincus que je peux vendre des produits. » Et voilà pour ce marathon de la comète. Vous savez donc tout sur la comète de Halley. Cherchez-la, comme ça, gratuitement, pour philosopher, pour rêver, pour lever une fois le nez du goudron. Ou bien, alors, ignorez-la, Elle s'en fout aussi. Elle revient de toute façon en 2062. Vous ne serez même plus là. On est bien peu de choses dans l'immensité du temps. Et puis, ce Radio Pleine Lune refaire une émission sur la comète de Halley en 2062. Longue vie à la comète et à Radio Pleine Lune.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame, rimes à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Il est trop jaloux de ses millions d'amants. Il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Sur Radio Pleine Lune, 101.4 MHz, c'était un voyage avec la comète de Halley, en espérant qu'elle ne nous amène pas des catastrophes, mais des choses magnifiques.
Thank you.
Radio Pleine Lune, bonsoir, nous allons vous quitter, nous vous laissons avec vos rêves, rêvez de belles comètes, de belles chevelures, de belles étoiles, rêvez de tout, et à la semaine prochaine sur Radio Pleine Lune avec une magnifique émission. Alors retenez la date, mercredi le 18, une émission sur l'éducation non sexiste avec des témoignages d'enfants, de petites filles et de petits garçons. Alors, quant à nous, on vous quitte, bonsoir. Il y aura une petite interruption technique que vous connaissez. Et puis, les programmes de Radio Pleine Lune et de Radio Zone reprendront toute la nuit et toute la journée de demain où ils repasseront en différé. Vers 11h, vous pourrez réécouter les nouvelles. Et à minuit, l'heure du crime, ce sera l'heure de la comète de Halley sur Radio Pleine Lune 101.4 MHz. Bonsoir.